Voilà, bonjour, c'est Chronique Hebdo, on est le 10 mai et c'est l'émission Chronique Hebdo que vous connaissez bien qui va
sur Radio Libertaire.
Sur Radio Libertaire, merci. Et avant de présenter l'invité que vous avez peut-être vu présenter sur notre blog ou sur le journal de la Fédération anarchiste, je voulais faire un petit commentaire au début. Parce que il se trouve qu'hier soir j'ai pu voir le dernier film de Julien Brigot, de Pierre Karl et d'Aurore Van Opstal, qui s'appelle DSK Hollande, etc. Et donc je pense que c'est bien pour introduire notre invité, parce que il me semble que ce film-là a atteint quand même une certaine perfection. Et on voit à quel point le travail de Pierre Bourdieu, le travail d'un tas de gens, et notamment le travail d'Acrimed, dont notre invité est l'un des fondateurs, a porté ses fruits depuis toutes ces années. Et c'est un film remarquable que je conseille d'essayer de visualiser. Parce que passer un certain dégoût des personnages qui apparaissent à l'intérieur, puisqu'il s'appelle DSK, DSK Hollande, etc. Et ça montre vraiment la suffisance, le monde médiatique complètement déconnecté des réalités, l'ignorance ou bien la stupidité des journalistes, leur agressivité, et ce pouvoir dont ils abusent allègrement. Et donc, c'est vraiment un plaisir. Alors, moi, je suis partagée des fois entre le fait de jeter la télévision par la fenêtre. Mais bon, je l'ai fait un petit peu. Puis maintenant, j'aime bien y revenir de temps en temps, puisque quand même, on est bien obligé de se tenir au courant. Mais voilà, si vous avez encore la télé et que ça vous intéresse de critiquer, de faire un petit peu cette critique des médias, je conseille à tout le monde ce film. Donc, je répète, DSK, Hollande, etc. Voilà, et je vous laisse maintenant Jacques, Gérard et notre invité le présenter.
Josy, précisons que ce film, si on peut le voir, évidemment, le but c'était gratuitement
sur Internet.
Oui. Pierre Rimbert, dans un article qui revient aussi sur les médias du Monde diplomatique du mois de mai, cite ce film. Je pourrais dire que ce film était prémonitoire ou c'était la répétition de ce qu'on a vu, justement, avec cette campagne pestilentielle ou présidentielle. Donc, il fallait regarder, il fallait aussi voir qu'il y a des images prises par Pierre Karl et ses amis dans ce film, mais qu'on a vu, on a assisté à chaque fois, bis repetita placent, il fallait regarder l'ensemble des chaînes. Maintenant, il y en a. La nouveauté aussi, c'est qu'il y a toutes ces nouvelles chaînes, qui appartiennent plus spécifiquement à des banques, comme BFM, BFM qui ne dit pas son nom, donc Finance Marché. Et là, voir aussi des discours, on a vu des discours en direct, c'était une première. C'est-à-dire que les chaînes capitalistes nous montraient les discours enflammés de M. Mélenchon. Et on pouvait voir ces discours en direct. Ça, c'est une première. Donc là, on avait en continuité, fallait y mettre un petit peu de temps. Alors, fallait y mettre un petit peu de temps. Donc ce matin, on reviendra, justement, puisque tu l'as dit, avec Patrick Champagne,
qu'on salue. Bonjour Patrick Champagne.
Bonjour.
Qui est notre invité, et comme Josy, tu l'as signifié, qui est un des fondateurs d'Acrimed et qui veut dire association
critique média.
Critique des médias, exactement. Donc on reviendra évidemment sur cette association, tout le travail qu'elle peut faire, et puis aussi avec Patrick Champagne, eh bien le présenter, Jacques, si tu veux, par rapport à justement un proche dans le travail justement de Pierre Bourdieu, et rappeler que le colloque du Collège de France qui a lieu au mois de janvier récemment, eh bien il y avait de nombreux intervenants, donc Patrick Champagne et aussi Franck Poupeau. Si vous êtes des fidèles et infidèles auditeurs de Chronique Hebdo, il y a quelques semaines nous avions invité Franck Poupeau avec ce livre sur l'État, les discours et les interventions plutôt de Pierre Bourdieu au Collège de France. Donc là, ce matin, eh bien, c'est Patrick Champagne pour parler de thèmes plus spécifiques, peut-être un petit peu plus pointus, et qu'on essaiera de relier avec, évidemment, l'actualité, puisque vous savez que Chronique Hebdo C'est une émission de commentaires anarchistes de l'actualité.
Oui, alors je pense en effet que l'actualité, c'est bien sûr les résultats de ce triste semestre de foire du trône, comme on l'a appelé, avec des primaires, avec des secondaires, avec un roi Dagobert qui vient d'être élu. Qui vient d'être choisi. Alors je crois que effectivement, moi ce que j'ai remarqué dans le travail de Patrick Champagne, notamment en ce qui concerne la notion de sondage ou la notion de complot, la notion de désenvoûtement, je pense que cette actualité, en effet, qui a montré quand même que il y avait presque 80% de nos compatriotes qui ont été à cet amusement de la foire du trône, est-ce que c'est un constat d'envoûtement et nous nous efforçons nous depuis fort longtemps et déjà il y a 10 ans quand on recevait Pierre Bourdieu de désenvoûter comme tu le dis toi-même Patrick et on se pose la question dans l'actualité on voit que les Algériens qui vont voter sont découragés sont dégoûtés et que la dernière fois ils n'ont voté qu'à 35%. Les Grecs se rendent compte que finalement la démocratie, au sens uniquement de grands partis qui se partagent le pouvoir, ça fonctionne pas du tout. Alors, ce qui est curieux, c'est que des pays qui sont censés quand même avoir un peu de, j'allais dire, de cervelle, et des gens qui se flattent, en tout cas en France, d'être les descendants des Lumières, sont aussi finalement atteints par cet envoûtement qui évidemment témoigne de moi, ce qui m'a frappé, par exemple, dans la campagne, dans les derniers jours, là, dans les, ce que tu disais, Gérard, de cette espèce d'amalgame et d'assommoir qui a représenté cette fin de campagne, c'est que ce soit le candidat, que ce soit le roi précédent, ce qui m'a frappé, c'est que à peine dans les meetings, à peine avait-il dit un mot, ça aurait pu être n'importe lequel, qu'une foule enthousiaste se mettait à applaudir et à pousser des grands cris sans même qu'on ait eu une phrase complète. Et donc, on peut se demander si, en effet, cette espèce de fétichisme, comme l'appelait Bourdieu, de l'abandon de pouvoir, de la délégation de pouvoir, est quelque chose contre lequel, on l'a souvent dit ici, évidemment, la raison n'a plus de capacité.
Oui, là, vous avez soulevé beaucoup de questions en quelques phrases et surtout des questions portant sur des sujets compliqués, enfin difficiles. Dans la publication récente des cours de Bourdieu sur l'État, ces cours du Collège de France des années 89-91, qu'il avait réalisé en même temps qu'il publiait un ouvrage qui s'appelle La noblesse d'État, qui est un ouvrage sur les grandes écoles et la formation des élites, et notamment sur l'analogie qu'il y a, enfin l'homologie qu'il peut y avoir entre la structure du pouvoir telle qu'elle se passe et la formation des élites, la structure des écoles qui préparent au pouvoir. Dans le cours sur l'État, ce qu'il analyse, c'est la lente invention de l'État comme champ relativement autonome, qui doit d'ailleurs son efficacité au fait qu'il est pensé comme au-dessus des forces sociales, et où, comme le système d'enseignement d'ailleurs, aussi, dont la force du système d'enseignement, c'est de penser qu'il est neutre.
Mmh. Oui.
Et il doit toute sa force précisément au fait que ce qu'il fait, il le fait sans qu'on sache comment il le fait. Et en fait,
sans qu'on conteste sa prééminence.
Mais non, c'est une notion centrale qui va émerger de l'analyse d'ailleurs que fait Bourdieu de l'État. C'est la notion de légitimité, c'est-à-dire le fait que c'est admis c'est considéré comme normal,
naturel.
Comme en soi, comme naturel.
Naturel.
Et là, on rejoint un des soucis théoriques majeurs de Bourdieu. Enfin, c'est pour ça que vous avez touché un point important, qui est le problème de la domination. Alors, qui n'est pas un problème inventé par Bourdieu. La domination, c'est un processus qui a intrigué nombre de sociologues par le passé, aussi bien Weber que Marx, que Durkheim, et auquel Bourdieu s'est à son tour affronté. Et notamment, je voudrais vous citer deux textes, l'un de Bourdieu et un autre d'un philosophe que Bourdieu citait. Le texte de Bourdieu est le suivant. Il est extrait de la domination masculine, autre texte central s'agissant d'analyser la domination. C'est un texte qui ouvre en quelque sorte ce petit ouvrage et qui est le suivant. Je n'ai jamais cessé de m'étonner devant le fait que l'ordre du monde, tel qu'il est, avec ses sens uniques et ses sens interdits, au sens propre comme au sens figuré, ses obligations, ses sanctions, soit grosso modo respecté. Qu'il n'y ait pas davantage de transgression, de subversion, de délit, de folie. Un peu plus loin, et plus surprenant encore, que l'ordre établi, avec ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices, se perpétue, en définitive, aussi facilement, mis à part quelques accidents historiques, et que les conditions d'existence les plus intolérables puissent si souvent apparaître comme acceptables et même naturelles. Alors, moi, je pense que ce texte pose très très bien le problème. C'est qu'est-ce qui fait que une révolution soit possible, alors que tout pousse à ce qu'elle ne soit pas possible. Alors, il avait trouvé un élément de réponse dans un autre texte qu'il avait eu l'occasion de citer assez souvent, et pas seulement dans son cours sur l'État, à la fin des années 80, et qui est le suivant. C'est un texte du philosophe Hume, David Hume, qui écrivait « Rien n'est plus, c'est le même étonnement, hein. Rien n'est plus surprenant pour ceux qui considèrent les affaires humaines, avec un œil philosophique, que de voir la facilité avec laquelle le plus grand nombre est gouverné par le plus petit nombre. Donc, parce que par définition, les gouvernants, c'est une petite catégorie de population. Et d'observer la soumission implicite avec laquelle les hommes révoquent leurs propres sentiments et passions en faveur de ceux qui les dirigent. Il va essayer de trouver la réponse. Quand nous nous demandons par quels moyens cette merveille, cette chose étonnante est réalisée, ben nous trouvons que, comme la force est toujours du côté des gouvernés, hein, les gouvernés sont le nombre, etc., nous trouvons comme la force est toujours du côté des gouvernés, que les gouvernants n'ont rien pour les soutenir d'autre que l'opinion. C'est-à-dire la manière de ce qu'on pense de ce qu'ils font. C'est donc sur l'opinion seule que le gouvernement est fondé. Sur l'opinion seule que le gouvernement est fondé. C'est-à-dire ce qui désigne dans le mot opinion, c'est la manière dont les gouvernants sont perçus. C'est-à-dire ça renvoie à ce qu'on nous on dirait aujourd'hui les catégories de perception. C'est donc sur l'opinion seule que le gouvernement est fondé. Cette maxime s'étend aux gouvernements les plus despotiques, les plus militaires, aussi bien qu'au plus libre et au plus populaire. Alors il me semble que là, les questions que vous posez rentrent dans cette problématique. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a de la domination et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour que le monde social se reproduise avec ses injustices, etc. Et il y a un élément qui est donné, c'est le fait que la domination ne passe pas nécessairement, comme on tente à le croire généralement, par le fait qu'ils ont la force militaire. Oui. Là, on voit ce qui se passe en Syrie, par exemple, qui est absolument affreux. On pense que c'est la force physique. Alors ça renvoie d'ailleurs à une définition que donnait Weber de l'État, où il disait que l'État, c'est une institution qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. C'est-à-dire, on peut se battre, on peut user des armes, mais seul l'État a le droit de le faire, en principe. Et Bourdieu ajoute, oui, mais ça, ça se voit. C'est pas une grande découverte. On le voit que il suffit de participer à une manifestation interdite pour voir la force de l'État avec les
gendarmes et ses militaires.
Ces gendarmes et ses militaires, etc.
Les forces invisibles. C'est celles, les forces invisibles.
Par contre, ce qu'on voit beaucoup moins, c'est ce qu'il appelle précisément la violence
symbolique.
C'est-à-dire cette violence qui s'exerce avec le consentement de ceux sur lesquels elle s'exerce. Parce qu'ils ont des catégories de perception qui leur sont défavorables, mais qu'ils acceptent comme allant de soi. Voilà quelques éléments, me semble-t-il, qui me semblent utiles pour penser les problèmes que vous avez soulevés. Qu'est-ce qui fait qu'on va voter ?
Alors, c'était ça, voilà, pour relier ça à l'actualité directe.
Il y a un court texte très intéressant de Bourdieu dans Les Actes de la Recherche, je n'ai plus la référence, mais ça peut se trouver assez facilement, qui, pastichant Heidegger, dans ses cours intitulé « Qu'est-ce que penser ?», il avait intitulé un petit texte en ouverture d'un numéro des Actes de la Recherche consacré au vote, justement, « Qu'est-ce que voter ?» et dans lequel il montre la complexité, en fait, comment s'établit cette chose qu'on fait sans y penser aujourd'hui. Et quand on en retrace la genèse historique, ça permet de voir tous les possibles qui ont été éliminés par rapport à cette solution qui a été adoptée finalement et qui apparaît comme la seule possible.
Justement, Jacques, on pourrait se reporter en disant ça, ce qu'on avait précisé, cette revue Ligne, qui a fait un numéro spécial, justement sur la fameuse question, c'est pas la question de se poser pour qui et pour qui aller voter, mais pourquoi aller voter. Et donc, c'était des contributions.
Ah oui, c'était assez intéressant. Je ne sais pas si tu as vu cette revue. Il y a une quarantaine de contributeurs qui sont plus ou moins connus, même plutôt des amis de la revue Ligne, et qui ont donné leur avis. Et alors, c'était assez intéressant de voir que ceux qui avaient réellement décidé de s'abstenir avait une articulation de leur argumentation tout à fait intéressante et solide, mais que la majorité des 40, peut-être une vingtaine ou enfin une trentaine sur 40, était plutôt favorable au vote, mais avec toujours cette espèce de réserve en disant bah oui on peut pas faire autrement, bah oui c'est vrai que c'est peut-être pas la solution, mais on va tout de même le faire. Et c'est vrai que quand on pense que Bourdieu, quand il était venu il y a une dizaine d'années ici, nous disait qu'il allait battre Proudhon sur la ligne à propos du fétichisme et de la délégation de pouvoir. Et c'est vrai qu'il a fait un texte sur ce sujet-là qui est particulièrement intéressant. Mais encore une fois, on se dit est-ce que cette magie, d'ailleurs je crois que c'est un sujet que tu évoques dans l'envoûtement, est-ce que cette espèce de phénomène de magie continue à fonctionner dans un pays des Lumières?
Mais ça me fait penser à une plaisanterie qui pourrait être représenter bien des mécanismes qui sont à l'œuvre. On s'interroge sur pour qui voter, plus que le fait même de qu'est-ce que ça fait que voter, plutôt que, etc. C'est une plaisanterie, vous savez, c'est l'histoire c'est un poste frontière, c'est un camion qui passe comme ça, régulièrement, et le douanier cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le camion, il trouve jamais rien. Et arrivé en bout de course de carrière, il demande mais alors qu'est-ce que vous passiez
depuis 10 ans
oui. Qu'est-ce que vous passez? Ben les camions. C'est parce qu'il y avait dedans, vous pouviez toujours acheter à chaque fois un nouveau camion. Donc c'est une plaisanterie qui, je crois, dit plus que simplement quelque chose de rigolo. C'est souvent l'attention est portée sur des choses. Alors que le plus important passe ailleurs.
Bien sûr. Il y avait juste, puisque dans ce que tu si tu évoques là, par rapport à cette plaisanterie, il y avait plus qu'une plaisanterie aussi, une autre, ce que disait l'humoriste Pierre Desproges. Il disait, les enfants croient au Père Noël et leurs parents vont voter. Mm-hmm. Alors, dans le phénomène de croyance, oui, là oui, aussi, de la même manière, au-delà de ça faisait rire beaucoup, oui. Mais la même croyance en ce Père Noël et la même croyance en ces élections.
Mais encore une fois, la notion de croyance, qui est une notion également très importante, elle est à relier avec ce problème central de la domination symbolique, c'est-à-dire des catégories mentales de perception, des catégories sociales de perception. La notion de symbolique est très importante. Enfin, ça traverse toute l'œuvre de Bourdieu et je pense que c'est pas un hasard. C'est que quand on fait de la sociologie, le sujet social, le sujet a cette propriété qu'il parle, qu'il pense, que le monde. Le monde réel pour lui, c'est le monde qui apparaît à ses catégories de perception. Et donc, cet intérêt que l'on peut porter sur mais comment on est socialisé, comment on apprend à penser, comment on apprend à marcher, comment on apprend à se tenir, etc., qui sont autant de questions que Bourdieu a abordées, notamment à travers la notion d'habitus. Mmh. Parce que la notion d'habitus comprend trois sous-catégories. Il y a ce qu'on peut appeler l'habitus corporel, ce que Bourdieu appelle dans ses travaux l'exis corporel, c'est-à-dire la manière de se tenir. On apprend à se tenir, tiens-toi droit, etc. Mmh. Mais derrière le tiens-toi droit, c'est aussi autre chose.
Oui.
C'est aussi une dimension éthique. Hein, c'est-à-dire
marcher droit. Hein.
C'est-à-dire, c'est ce que pour chaque milieu social, ce qui est bien et pas bien. Hein. Même sans faire de morale, implicitement, on apprend aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est bien et ce qui est pas bien.
Ce qui est caché.
Qui est la deuxième dimension, qui est la dimension ce que les sociologues appellent l'éthos, qui est un mot qui rappelle l'éthique, enfin la morale, mais qui est à l'état implicite. On n'a pas besoin de faire la morale, on a une morale. Et puis il y a une troisième dimension. Enfin, sur laquelle Bourdieu a beaucoup travaillé, et qui est la troisième dimension d'habitude, qui est précisément, on apprend à penser aussi. C'est-à-dire que le monde social vous donne des catégories de perception, des mots. Par exemple, théorie pratique, qui est une opposition classique, notamment dans le discours semi-savant, c'est quelque chose qui nous est produit par le monde social, alors que dans bien des cas, la théorie et la pratique, c'est pas deux choses qui s'opposent.
Par rapport juste au langage, c'est exactement ce qu'on peut dire, c'est-à-dire parler dans une langue, c'est penser aussi dans une langue.
Exactement.
Ça, c'est très important.
Exactement. Hein,
puisque là, on peut faire des différences, justement, simplement, en s'amusant à comparer les différentes langues, voir pas simplement la syntaxe et la grammaire, mais les mots.
C'est ça.
Ce que les mots, c'est pas simplement des mots, c'est une pensée.
C'est une pensée,
exactement. Mise dans notre incorporé. Dans notre cerveau.
Mais je pense que c'est un des atouts formidables de la sociologie de Bourdieu, c'est qu'il venait de la philosophie, qu'il n'a jamais quitté, et dont l'interrogation
fondamentale
touche autour des problèmes des catégories de perception. Le philosophe s'interroge beaucoup sur comment on est amené à penser, etc. Et Bourdieu a sociologisé ce problème. C'est-à-dire, on apprend à penser dans un contexte social. Et faisant éclater les divisions disciplinaires, utilisant aussi bien l'ethnologie que la biologie, enfin, tout, la géographie, l'histoire. Bourdieu a beaucoup travaillé avec l'histoire, contrairement à ce qu'on a pu penser.
Juste cette précision, on l'a déjà citée par rapport à la langue. En Italie, et justement sur un thème qu'on évoque souvent dans cette émission sur la notion de travail, hein, puisque c'était la notion à un moment du vrai travail, entre l'Italie et la France, le fait de dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, hein, la plupart des gens se posaient cette question, qui renvoie souvent à la profession, qui renvoie au métier, on dit je suis enseignant, hein, par exemple ce choix, instituteur, ou je suis ouvrier. Alors qu'en Italie, on dit je fais. Faire, je fais ouvrier, donc c'est pas l'identité première où je fais le professeur.
C'est
très important parce que simplement ces deux notions, on voit que la pensée est totalement différente et la définition même de l'individu.
Mais ça nous vient de l'ethnologie. C'est cette espèce de vision du monde qui est, on voit le monde à travers la grille. Et ça, c'est même de l'ethnologie. Pourquoi ? Parce que l'étude de société très différente des nôtres, qui avait comme conception du monde un monde très différent du nôtre, permettez la comparaison, et ce monde qui nous paraît nous naturel à travers nos catégories, on s'aperçoit qu'à travers d'autres catégories, on voit un autre monde. Bon, et donc, on voit bien que les divisions disciplinaires qui mettaient l'ethnologie d'un côté et la sociologie de l'autre, quand on les fait éclater, ça pose des nouvelles questions aux deux disciplines d'ailleurs, aux deux disciplines.
Et sur le plan pratique, est-ce que cette forme d'aveuglement qui consiste finalement à accepter ce qui est l'habitus, ce qui est la tradition, la coutume, les obligations, la règle, la loi, etc. Est-ce que cet aveuglement, cette soumission, est-ce que elle n'est pas tout de même attaquée normalement par la curiosité, par l'esprit critique, par l'imagination d'autres choses? Et est-ce que cet aspect-là, au fond, qui pourrait, comme le disait Stirner, faire d'un individu autre chose qu'une créature, mais quelqu'un de créatif, un créateur, est-ce que ça n'est pas, je pense notamment au papier que tu as fait à propos de Taguieff et qui parlait qui avait inventé un néologisme sur le dubitationnisme, c'est-à-dire, et qui critiquait beaucoup ces gens qui doutent et qui par conséquent participent évidemment des théoriciens du complot, c'est-à-dire au fond des gens qui veulent à tout prix se mettre à ne plus discuter d'un sujet. Et je pensais, à propos de cette notion de dubitationnisme, je pensais aussi à Stirner qui nous disait, qui écrivait justement cette nécessité pour devenir autre chose qu'un espèce de sujet ou une créature, la nécessité du doute. La nécessité du doute, il concluait un de ses paragraphes par « Nous sommes les chevaliers du doute ». Et
le
crois qu'en effet,
donc je suis.
Le doute est bien l'embryon d'esprit critique qui peut en effet démolir cette espèce d'aveuglement, cette espèce de soumission.
Là, sur les problèmes que tu soulèves, je dirais qu'il y a un élément qui me paraît important à prendre en compte, qui est le suivant, c'est que il y a, même pour les dominés, ce que Bourdieu appelle des bénéfices d'ordre. C'est-à-dire le fait que mieux vaut l'État injuste que pas d'État du tout. Parce qu'il apporte un ordre relatif. Une sécurité qui permet de penser à un tout petit peu en avant, de faire des projets, d'avoir le minimum de sécurité, etc. Et donc, même pour les dominés, il existe des bénéfices à la domination. Ça paraît injuste de dire ça comme ça.
La servitude volontaire.
Alors, je veux dire, c'est pas que les gens aiment la domination. C'est que, même dans les situations de domination, la domination apporte des choses positives pour la vie des dominés, dans la vie des dominés. Et d'ailleurs, c'est à cette condition que ça peut fonctionner. Parce que quand ça n'apporte plus rien de positif, c'est-à-dire dans les formes limites de dictature, où même la sécurité minimum n'est plus assurée, etc. Bon, à ce moment-là, les conditions sont mieux créées pour
la révolte.
Pour la révolte. Hein. Je pense que la Syrie appartient un peu à cette catégorie de situations où il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus de bénéfices d'ordre. Oui. Hein. Il n'y a que des produits du désordre.
Oui. Alors simplement, peut-être qu'on reviendra. C'est un état des lieux qu'on peut faire aussi. Et je reviens sur ce que tu viens de dire là par rapport à certains bénéfices de la domination. Mais est-ce qu'on peut pas s'interroger sur le fait que cette domination, on pourrait la subvertir? Par rapport à un constat que l'on fait, un état des lieux, comme les sociétés s'organisent, ou à certains temps de l'histoire, puisque tu as parlé tout à l'heure d'ethnologie, hein, comparer différents types de civilisations, et est-ce qu'on pourrait pas, justement, comme on le fait, d'essayer d'envisager de dire qu'une société pourrait s'organiser en dehors de la domination. Et justement sur des rapports égalitaires, c'est-à-dire des rapports égalitaires sur tous les plans, mais que les bénéfices que l'on tire de la domination, ça vient peut-être d'une organisation que l'on subit, d'une organisation encore archaïque et qui pourra un jour, on pourrait essayer, être subvertie.
Oui, mais là on est dans un ordre de fait qui relève de la réflexion utopique. C'est-à-dire, à partir d'un certain idéal, quel est le type de société qu'on peut construire. Le problème, c'est que ces sociétés utopiques qu'ont toujours été créées à des moments différents de l'histoire par des penseurs, qui ont toujours... ça fait partie de ces choses importantes dans la réflexion que de penser à une cité idéale. Ça a commencé chez Platon, ça s'est continué par Thomas More, etc. Enfin, il y a tout un courant de pensée, évidemment chez Marx aussi, avec sa vision de ce que serait un communisme, une société communiste, etc.
Oui, il parlait même d'anarchie.
Bien sûr.
L'État n'étant plus.
Bien sûr. Le problème, c'est que entre ces visées utopiques et la réalité, très souvent la réalité a détruit ces idées utopiques. Mais ce qui est dramatique, c'est que il y a une destruction de ces utopies au nom même de ces utopies. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est une des grandes différences, à mes yeux en tout cas, entre le communisme et le fascisme, le communisme tel qu'il s'est exercé en Union soviétique et le fascisme, c'est que les gens qui croyaient participer au communisme en URSS, le faisaient au nom d'idées nobles, formidables. Alors que dans le fascisme, bon, l'idéologie était ce qu'elle était. Je veux dire, c'est une idéologie raciste, etc. Donc
l'homme nouveau, l'homme plus fort.
Oui, mais là, c'est ça qui est terrible, c'est que on mobilisait ce qui avait de plus généreux chez les gens pour soutenir un régime qui était ce qui est de plus détestable. Et donc ça, c'est un des effets, si je puis dire, terribles de la pensée utopique, c'est que elle peut susciter des espoirs et au nom de ces espoirs, contribuer idéologiquement à la destruction.
Oui, mais alors, si tu veux effectivement, en ce qui concerne...
C'est pour ça que les sciences sociales sont peut-être utiles. C'est-à-dire essayer de construire une utopie rationnelle.
Si tu veux, c'est peut-être un peu la pensée de Proudhon qui a été extrêmement sévère avec tous les utopistes de son époque, et effectivement, que ce soit Fourier, que ce soit tous ceux qui ont en effet essayé de faire des petites communautés aux États-Unis ou ailleurs. Mais son idée était de rester toujours très proche de la réalité et simplement d'avoir comme objectif, comme idéal, une société qui ne serait jamais parfaite, et en cela il se distinguait complètement des utopistes, puisque au fond pour lui la société est toujours en mouvement, et que par conséquent il s'agit pas de dire ça va être le grand soir, on va créer quelque chose de formidable, une société anarchiste clé en main. C'est exactement le contraire, d'ailleurs c'est en ça qu'il s'opposait aussi à Marx en partie, dans la mesure où il disait mais on n'est pas là pour mettre en place un nouveau système, on est là pour réfléchir et pour essayer d'avancer en créant un socialisme qui soit pas une espèce de mécanique toute faite, et qui effectivement la suite l'a montré, a débouché sur l'URSS et sur le communisme autoritaire. Alors, ce que Gérard disait, c'est qu'au fond, est-ce qu'on peut pas dans une société, en effet, dans laquelle la domination existe, elle apporte, comme tu le disais, à un certain nombre de gens une espèce de forme plus ou moins illusoire, d'ailleurs, de sécurité, parce qu'en ce moment, la sécurité, elle est particulièrement mise en cause. Hein, on le voit, pas seulement en France.
Sécurité de pensée, pas seulement une sécurité physique, aussi des catégories de pensée stables, même si ces catégories sont négatives pour ces classes-là.
Oui, mais alors ça veut dire que l'intéressé, enfin, ne remettrait jamais en cause cette catégorie de pensée qui le rassure, c'est-à-dire il ne se dirait jamais mais est-ce qu'on pourrait pas faire autrement, est-ce qu'on pourrait pas progresser, avancer dans une autre direction.
Si, tout à fait, mais ça suppose des luttes.
Ah oui.
C'est-à-dire que la force de ces catégories de pensée, c'est que elles sont là. Et elles sont puissantes quand on fait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les faire agir pour qu'elles agissent. Par contre, si on veut les contrer, il faut dépenser une énergie folle pour lutter contre ces catégories et imposer d'autres catégories. C'est ça qui fait la force de ces catégories, c'est que ces catégories qui sont là, elles occupent le terrain sans même qu'on ait besoin de les imposer. Elles s'imposent.
Oui, mais quand même que...
Mais bien sûr qu'il y a les luttes, bien sûr.
Regarde, Acrimed, c'est quand même bien la bagarre essayer de démasquer, en quelque sorte, tout ce qui fait la force de la propagande qui, en effet, conforte...
Oui, mais ça n'empêche pas le monde médiatique de tourner quand même. Le poil à gratter,
Et puis la question, enfin très importante, ce qu'on dit, c'est-à-dire la prise de conscience de l'ensemble de ces éléments de la domination, comment la diffuser et comment l'expliquer. Si l'école, on pourrait imaginer que des enfants, même pas forcément passés par l'école, mais que des enfants de le plus jeune âge, on leur parle de ces phénomènes de domination, ce phénomène de dominer, ce phénomène de différenciation entre les individus, ce phénomène de force, comme on l'exprimait tout à l'heure, de violence symbolique, pense qu'il serait accessible à ça. Et c'est pour ça que quand on parle d'individus étatisés, à partir du moment où il est, comme on l'a dit au début de cet entretien, à partir du moment où il est étatisé, pour le désétatiser, ça passe à mon avis par une prise déjà de conscience d'un état des lieux, de lui expliquer comment ces mécanismes fonctionnent, pour pouvoir peut-être les subvertir, s'en débarrasser et les dépasser. Et c'est pour ça que peut-être que tant qu'on est dans ces types de sociétés, on peut aller en disant, bah oui, on va s'arranger avec une forme de domination, les dominés vont en tirer des avantages, c'est un pis-aller, c'est mieux, dans la situation actuelle, elle est tellement terrible que c'est peut-être mieux de faire comme ça. Donc, évidemment, sur ce plan-là, on peut dire qu'à un temps T, ce sont des arrangements, mais c'est pas une utopie, à mon point de vue, que d'imaginer que ça pourrait déjà enseigner et que la prise de conscience du plus grand nombre de ces mécanismes permettrait de les dépasser.
Oui, moi je voudrais pas que le fait de lire les luttes du monde social avec la sociologie conduise à une sorte de découragement. Et c'est un problème, un vrai problème, qu'on conduise à une sorte de
renoncement,
c'est ainsi, il n'y a rien à faire, etc.
Oui,
tout à l'heure, j'évoquais la notion qu'on trouve aussi chez Bourdieu d'utopisme rationnel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Bourdieu prenait cet exemple banal, il disait finalement, les sciences sociales, on pourrait les faire agir comme les sciences de la nature. C'est-à-dire, de même que c'est parce qu'on connaît les lois de la physique qu'on fait voler les avions, qui est quand même un truc dingue, quand on y réfléchit. Ça nous paraît banal aujourd'hui, mais c'est fou de faire voler des avions énormes, comme ça, qui
s'envolent. Ça nous semble aller de soi, comme tu disais, évidemment.
Ça paraît aller de soi.
Ouais,
de même, son idée, c'est comment se servir des lois qu'on découvre dans les sciences sociales pour faire agir dans le bon sens les choses. Donc il me semble que ça pousse pas au découragement du tout. Alors maintenant, le problème, c'est que la tâche est quand même très compliquée. La tâche est difficile parce que, d'ailleurs, c'est ce qui ouvre son cours sur l'État. Il dit un des problèmes d'une sociologie de l'État, c'est comment penser l'État avec une pensée d'État. Comme on dit, on est étatisé, c'est-à-dire on a des catégories de perception du monde qui sont celles de qui sont produites par des sociétés à État. Mmh. Bon, c'est-à-dire on a une pensée étatisée. Et comment penser l'État alors que
autrement avec des lunettes, hein, avec les lunettes permanentes.
C'est
hein,
ça, c'est ça.
Dire, au travers.
C'est une métaphore que reprenait de Heidegger qui dès l'amour de l'art, la citation est là, où il disait finalement on voit le monde avec des lunettes, mais on ne voit pas les lunettes avec lesquelles on voit le monde. Et donc c'est ça le problème. Or l'État, c'est les lunettes. Hein? C'est les lunettes, c'est comment voir des lunettes. Et d'ailleurs, c'est arrivé très souvent aux gens qui portent des lunettes, c'est de chercher ces lunettes alors qu'on, alors qu'on les a sur le nez. Et puis d'un seul coup, mais non, mais c'est vrai, je les ai sur le nez.
Et l'intérêt de beaucoup, de certains, on va s'en tenir aux lunettes, tu dire, c'est de les garder. Oui. Certains ont intérêt à ce que le plus grand nombre garde ses lunettes, même en prenant conscience, et c'est ça les luttes par rapport à ça, l'importance.
Pour poursuivre la métaphore, beaucoup de gens préfèrent garder leurs lunettes parce qu'ils voient juste, ils voient précis, plutôt que de les retirer, ils voient flou.
Voir flou et avoir que des ennuis.
Et avoir que des ennuis,
c'est ça.
Non, mais même sur cette notion d'État, je crois quand même que on pourrait tirer des conclusions de l'actualité, de ce qui se passe par exemple en Grèce, où on constate en effet l'incapacité de l'État fonctionnant sur la base dite démocratique traditionnelle, de la représentation avec deux partis qui alternent au pouvoir, un peu comme partout dans les systèmes dits démocratiques. La démocrature, comme disait Castoriadis, ça fonctionne pas mal depuis longtemps. Et on pourrait imaginer une réflexion sur, au fond, comment organiser autrement le pouvoir. Imaginez ce que Proudhon avait imaginé dans son principe fédératif, c'est-à-dire, au fond, plutôt que d'avoir un État qui implique la centralisation, qui implique le fait qu'il y a une élite qui commande avec, pour nous, un petit roi d'Agobert, est-ce qu'on pourrait pas imaginer la dilution du pouvoir et le fait que l'organisation, l'administration de ce qui compose finalement l'État ne parte pas du haut vers le bas, mais à l'inverse, parte du local, du départemental, du régional, et que finalement, au sommet, ne subsistent que les affaires qui ne peuvent pas être réglées en bas. Donc cette idée que finalement, quand on voit qu'en Grèce, par exemple, y compris le chef du parti anti-parti, qui conteste complètement le PASOK, le socialiste.
Ce qui correspond à la gauche radicale, ce qu'on appelle là-bas la gauche radicale.
Alors, est-ce que c'est ça qui il reste? C'est vrai qu'on peut se demander comment faire naître cette idée qui pourtant paraît pas complètement illusoire ni utopique de dire, mais on a bien vu en Belgique un pays qui a fonctionné sans gouvernement pendant une année, sans que ça déclenche de problèmes particuliers. Alors est-ce que, en effet, on peut pas se demander si cet État, en quelque sorte, doit toujours avoir cette consistance centrale et qui, en même temps, est quelque chose, ou alors c'est qu'on reste, en effet, comme le disait l'autre, dans un phénomène monarchique, une monarchie républicaine, c'est-à-dire, au fond, avec l'incapacité des citoyens et de se constituer eux-mêmes en un pouvoir local, quitte en effet à s'associer, à se regrouper, à faire des associations, mais ne plus dépendre d'un pouvoir central.
Oui, mais ça ne résout pas le problème qui est que l'État peut exister sous différentes formes, il peut centraliser, décentraliser, etc. Mais ce qui est apparu et qui est pensé par Bourdieu de manière très ambiguë d'ailleurs, ce qui est apparu au XIVe, XVe siècle, c'est quelque chose de nouveau qui n'était pas réductible au monde de la famille, enfin aux intérêts de la famille, qui n'était pas réductible à l'économie, qui n'était pas réductible, qui avait son ce qu'il appelle la raison d'État, hein, c'est-à-dire une des intérêts spécifiques visant à l'intérêt général, à la notion d'universalité, alors qu'on retrouve aussi bien dans l'organisation décentralisée que tu évoques que au niveau d'un État centralisé. C'est-à-dire que l'État c'est quelque chose qui est apparu et qui a créé de nouvelles valeurs, celles de l'universel. Hein, c'est le fait que je n'obéis pas à mes intérêts particuliers. Alors, c'est quelque chose d'ailleurs qui avait été théorisé par Rousseau dans le contrat social. Moi, c'est une des choses que j'avais eu beaucoup de mal à comprendre parce que je comprenais pas que c'était de la métaphysique politique. J'essayais de chercher quelque chose au niveau de la réalité. C'est qu'est-ce que c'est que la volonté générale qui n'est pas la somme des volontés particulières. Et la raison, c'est il faut penser l'individu qui va voter comme un citoyen qui se coupe de tous ses intérêts personnels et qui va se mettre à penser quel est le vote utile pour ma société. Bon, alors c'est une histoire...
c'est une histoire à voter
les yeux fermés.
Oui, oui.
Mais, donc, quand les individus choisissent, non pas en fonction de ce qu'ils sont socialement, etc., culturellement, mais en fonction de cette espèce d'abstraction qui est le citoyen, membre d'une société... Alors à ce moment-là, la somme des résultats, ça devient la volonté générale, société qui se pense, qui elle-même, etc.
Mais est-ce que c'est pas, dans le sens négatif, une utopie? Parce qu'au fond...
Oui, c'est une utopie.
Peut-être pas, puisque ça existe.
ce qu'on voit aujourd'hui à travers les commentaires des sondages d'opinion, etc., enfin, pas des sondages d'opinion, des sondages d'intention de vote, etc., on voit, j'allais dire au contraire, le fait que les ouvriers, est-ce qu'ils votent pour conformément à leurs intérêts, et les riches, etc., c'est-à-dire on est en plein système d'intérêts particuliers.
On va faire
un petit break,
une petite interruption, comme on dit, musicale, mais avant peut-être pour la suite de cet entretien, peut-être revenir sur l'article de Pierre Imbert, je cite donc Le Monde diplomatique du mois de mai, c'était les médias contre l'égalité, puisqu'on va peut-être aborder quand même de façon importante après l'association Acrimed, et justement par rapport à ce que l'on disait, Pierre Imbert souligne la force du mécanisme institutionnel. Il disait que les idées politiques mises aux voix, on l'a vu, alors si l'on peut dire, par les médias, il fait la remarque suivante, et je trouvais que c'était très intéressant de le souligner dans Le Monde diplomatique. Le courant anarchiste, dit-il, qui récuse la délégation du pouvoir, n'a pas droit de citer. Alors c'est pour ça, par rapport à ce que l'on va développer peut-être tout à l'heure, c'est ce problème... puisque nous sommes sur Radio Libertaire, c'est ce problème de la diffusion. On va voir que la propagande des médias, la force qu'il y a dans les médias, est-ce qu'on essaie de mettre à jour, comme j'évoquais tout à l'heure le fait de raconter, peut-être aux enfants, ils comprendraient, les formes de domination incorporées par l'État, peut-être très très jeunes, et que ces éléments-là, on en parlera, parce que on l'avait évoqué, comment les diffuser, comment les faire passer, c'est justement... les lieux où ça pourrait exister, où on pourrait les faire passer, ne le font pas. Et l'empêchent de le faire, puisque là, Pierre Imbert, c'est ce qu'il dit. Simplement, cette idée qui remonte quand même assez loin, le départ du mouvement anarchiste, eh bien, la délégation de pouvoir, et aussi ce qu'évoquait Pierre Bourdieu, on ne peut jamais l'évoquer, on ne peut jamais en parler.
Bourdieu n'aurait pas le droit de citer non plus.
il faut mettre en parallèle à cette interrogation l'une des thèses de Marx sur Feuerbach, qui est pour faire la révolution, il faut éduquer le peuple, mais qui éduquera les éducateurs?
Voilà, oui.
Qui éduquera les éducateurs, c'est
et comment
à réfléchir.
Oui, alors que du temps de Marx, je pense qu'il n'y avait pas les médias qu'il y a actuellement et ces appareils de propagande. On peut le savoir, que ce soit la radio et que ce soit surtout cet impact évidemment de la télévision et dans l'ensemble de tous ces médias, dans l'ensemble de toute cette presse, par rapport à ça. Non, la question moi je pense fondamentale. C'est pas tellement enfin que ce que tu viens de dire éduquer les éducateurs. Je dirais simplement ces idées là, ces idées différentes qui sont développées quand même depuis très longtemps. Depuis justement Bourdieu, mais bien avant. Elles ne passent jamais, elles ne sont jamais, et on le voit par énormément d'individus, n'ont jamais entendu parler, se sont jamais posé la question, puisque les lieux où ça pourrait être, encore une fois, diffusé, ces lieux-là, eh bien, ne le font pas. Et je crois que c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que la réflexion même qu'on pouvait avoir sur la délégation de pouvoir, de dire combien d'électeurs ou combien de gens qui ont été votés ou d'autres dans la société française ont entendu cette idée de refus de la délégation de pouvoir. Alors s'il y en a aussi peu, et je crois que Pierre Imbert, ou en tout cas Pierre Garnier, Jean-Pierre Garnier plutôt, l'évoque, hein, il a l'air de dire, même les enseignants, dans le corps enseignant, comme on dit, puisqu'on veut en recruter 60 000, parce que ça arrangera les choses, il avait l'air de dire, mais même ça, ces idées-là, eh bien, ils ne les partagent pas, ou s'ils les ont eues un moment dans la tête, eh bien, ça s'arrête là, et eux ne diffuseront jamais, et eux ne feront jamais passer ces idées-là, comme on vient de le dire tout à l'heure. Je crois que ça, revenir sur ces aspects-là, il me semble, c'est très important.
Et pourtant, il y a quelqu'un qui disait que la démocratie, puisque au fond, elle est tout à fait sur la sellette en ce moment. La démocratie, c'est la démopédie. Oui. C'est-à-dire, au fond, c'est une façon de fonctionner en essayant à chaque fois de comprendre, d'expliquer, d'instruire sans éduquer, sans vouloir à tout prix imposer une autorité d'entraînement. Et je crois que ce souci-là, il est toujours actuel. Hein. Alors évidemment, les intérêts pour éviter cette réflexion sont tellement considérables.
Voilà, Jacques, Gérard, on va peut-être faire une toute petite pause. Rappelez que vous êtes sur Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo du jeudi matin. Un téléphone 01 43 71 89 40. Pour le téléphone. Et notre invité, c'était Patrick Champagne.
C'est toujours Patrick Champagne.
Alors, je pense qu'il va falloir quand même un petit peu organiser la dernière heure, parce qu'il me semble qu'on avait prévu quand même beaucoup de sujets et qu'il en reste pas mal. Alors, si on veut présenter un petit peu le travail de Patrick Champagne, justement, tous les
incidents pour la chanson que tu vas passer, Josie, on fera juste une petite présentation,
voilà,
explication après.
Donc je vais passer tout de suite Gilles Servat dans la chanson Hiérarchie. Et Gilles Servat est passé il y a très peu de temps au Forum Léo Ferré. Voilà. Pas voilà. Excusez-moi. C'est sûr. Voilà. Attends, ça revient encore.
Le soleil. Le soleil. Encore moins la terre, des humains, terre, soleil, humain, ne sont au centre de rien, pas de centre aux univers, hiérarchie. Hiérarchie qui les établit à son profit, humblement je dis, en tant que fleur, cette fleur est à moi bien supérieure. Et jamais mon
jamais. Je n'égalerai le poisson ni l'épi de blé, et jamais ne m'égaleront ni l'épi ni le poisson. La poussière, la poussière de notre univers est en moi. Dans les autres corps vibre la même matière. Ce qui fait de nous des frères. J'ai longtemps été sous d'autres états, sous d'autres formes. J'ai été consumé dans une étoile. J'ai été répandu dans la nuit. Sur des milliers de lieues s'étendaient les grains qui me composent. Leur nébulosité troublait la lueur des galaxies. Et chaque grain aimait chaque grain. J'ai été la fusion du métal, la roche brûlante et le cristal refroidi. J'ai été la terre et je suis devenu racine. J'ai été nuage, neige sur la cime et vague sur le rivage. J'ai été la brise parmi les aiguilles bruissantes des pins. J'ai rempli le poumon des rossignols. J'ai été pétale, couleur du monde, parfum, graine qui s'envole. J'ai été fruit des arbres et brin d'herbe. J'ai été la chair de ceux qui me paissaient et la chair de ceux qui mangeaient ma chair. J'ai réchauffé mon sang froid aux pierres du soleil. J'ai traversé des océans à la puissance de mes ailes. J'ai couru à quatre pattes. La force de mes nageoires a dominé celle des fleuves. J'ai bourdonné autour des étamines. J'ai rampé à travers l'humus. Et je le ferai encore.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué.
Que non, non, rien n'a changé, tout a continué. soldat, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps.
Oui, tout le temps.
Tout le temps.
Oui, tout le temps.
Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas, et pourtant.
Oui, et pourtant.
Et pourtant. Je chante, je chante.
Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en être ce soir demain. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Non, non.
De retour dans le studio. Voilà, alors c'était un petit clin d'œil. Vous venez d'écouter une chanson qui date de 1971, des Poppies.
Les Poppies.
Rien n'a changé.
Rien n'a changé. Alors à vous de voir ce qui se passe en ce moment. Et vous verrez assez rapidement les cellules de dégrisement. Le cellule de désenvoûtement.
Le changement, on va demander à Patrick Champagne ce qu'il pense du changement, puisque c'était pour tout de suite. Donc on est dans le changement, on est dans l'ère du changement. Est-ce que tu l'as senti, le changement?
Patrick Champagne, on te pose cette question, l'ère du changement. Maintenant, surtout.
Maintenant.
Il y a le changement proclamé, le changement au niveau des mots et les changements dans la société elle-même qui supposent des choses beaucoup plus importantes. La question qui est posée, c'est quel est le rôle que peuvent jouer les sciences sociales, puisqu'on parle de désenvoûtement, on parle de on pourrait dire de prise de conscience, des phénomènes sociaux qui s'exercent sur nous, et comment lutter contre, comment les utiliser positivement.
Voilà, c'est ça, c'est ces questions-là, essentielles.
C'est une question importante. Le problème, c'est que ça passe par la diffusion de la sociologie, des résultats de la sociologie. C'est d'ailleurs non pas faire de chaque citoyen un sociologue, mais de faire en sorte que chaque citoyen puisse le plus facilement possible accéder aux résultats de la sociologie. Bourdieu évoquait le Mallarmé dans son cours sur Manet au Collège de France, qu'on est aussi en train de préparer. Et en gros, ce qu'il disait, en reprenant Mallarmé, c'est que les scientifiques ont besoin de s'autonomiser pour travailler, mais ils ont ensuite un devoir de restitution à l'extérieur, une fois qu'ils ont... C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les choses, ils doivent travailler en autonome, et obéir aux lois même qu'ils se donnent, les lois de la production scientifique. Ils n'ont pas à recevoir d'ordre de l'économie, des politiques, etc. D'ailleurs, on voit ce que ça a donné par le passé. Donc ils doivent être autonomes, et ils défendraient volontiers la tour d'ivoire pour travailler. Mais est-ce qu'il a toujours fait? Il y a aussi un devoir de restitution, et on est payé par l'État, et on a donc le devoir de restituer au plus grand nombre. Alors, donc c'est un problème de la diffusion des résultats de la sociologie. Avec cette idée que si l'on sait les mécanismes par lesquels nous sommes manipulés et qui nous manipulent d'autant plus que l'on ne les connaît pas, si on connaît ces mécanismes, on pourra mieux s'en dépatouiller en quelque sorte. Alors là c'est un débat. Il y a un débat, et notamment c'est un débat qu'il avait avec Jacques Bouvresse, ce philosophe également qui était un de ses collègues au Collège de France, où Bouvresse était beaucoup plus dubitatif sur les effets même sur la réalité, de la connaissance de la réalité. Baudet était assez optimiste. Il pensait qu'en diffusant le plus largement possible la sociologie, on aiderait les gens à ne pas être victimes des mécanismes de domination symbolique, à mieux se défendre. Bouvray, c'était beaucoup plus dubitatif.
Mais pourquoi? Non, développer.
Il pensait pas que ça pouvait changer aussi radicalement, gens, que de savoir. C'est la plaisanterie aussi qu'on sortait sur la psychanalyse. Quand on fait une psychanalyse, enfin pour ceux qui font une psychanalyse, ils vont beaucoup mieux quand ils trouvent quelqu'un qui non pas les change, mais leur dit oui c'est bien ce que vous êtes. Bon.
Ou l'inverse pour la psychanalyse, de dire le monde est affreux dans lequel vous êtes, vous en prenez conscience, mais on va vous apprendre à vivre avec.
C'est ça, voilà. Voit que dans ces deux cas qui sont le produit de plus ou moins de plaisanterie. On voit que y a aucune place pour un vrai changement. C'est soit on s'adapte à la réalité, ou soit on change les gens qui portent sur vous le regard. C'est un débat qui est ouvert.
Bouvresse, au fond, n'avait pas confiance dans le côté pédagogique, au fond.
Je dirais pas plus sur Bouvresse. Invitez-le pour qu'il s'en explique. Je faisais simplement allusion à des débats que lui-même d'ailleurs a évoqués, notamment dans un livre qui s'appelle Bourdieu, sociologue et philosophe, qui est paru chez Agone, où il évoquait Bourdieu et notamment les discussions qu'il avait avec lui, et que Bourdieu aussi m'avait évoqué sur quelque chose d'ailleurs que Bourdieu avait écrit dès la reproduction dès 1970. Où il disait, dès lors que les mécanismes qui contribuent à la reproduction sont mis sur la place publique, alors qu'ils ne fonctionnent jamais aussi bien que quand ils sont cachés, que les gens ne s'en rendent pas compte, etc., ça permet de changer la réalité de la reproduction. Donc il écrivait ça dès 70, donc il y avait une sorte de, comment dire, de penser qu'il était possible... Alors, de changer le monde avec la sociologie, avec les sciences sociales. Alors, c'était peut-être aussi des propos enthousiastes de quelqu'un qui voulait développer les sciences sociales, puisque ça correspond aussi à une période où les sciences sociales, les années 60 et 70, se sont particulièrement développées chez nous. Et donc, il y avait sans doute un courant d'optimisme sur ce que pouvaient faire les sciences sociales, sur lequel on a dû sans doute en rabattre un peu plus tard. Mais toujours est-il que Bourdieu a toujours pensé que les travaux qu'il faisait, ou que faisaient les sociologues, devaient trouver des voies de diffusion et sortir, en quelque sorte, d'une littérature purement professionnelle, destinée à des professionnels, ou pire, destinée aux dominants pour les aider à dominer. Comment s'y est-il pris? Il s'y est pris de plusieurs manières. Il y a d'abord les conférences qu'il faisait systématiquement auprès d'un public hétérogène à la sortie de ses livres, et dans lesquelles il essayait de se mettre à la portée des auditeurs ou des gens qui venaient assister à ses conférences, et il les publiait. Et c'est le cas, par exemple, d'un ouvrage comme « Questions de sociologie », qui est une très bonne introduction. C'est un ensemble de conférences qu'il a données, mais il y avait aussi « Choses dites », il y a aussi « Raisons pratiques ».«
Ce que parler veut dire ».
Voilà, « Ce que parler veut dire », où on trouve des comptes rendus de ces conférences. Et puis, il y avait ses cours au Collège de France. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les publie, c'est que il y a un effet même de la situation pédagogique qui pousse... la personne qui fait, en l'espèce de Bourdieu, qui essaye d'exposer son travail, qui le pousse à se faire comprendre. Et notamment la présence d'un public, le fait que on le voit prendre des notes, ou au contraire on le voit de plus distrait, ou on voit des gens qui viennent, des gens qui repartent, etc. Enfin, tout ça conduit l'orateur en fonction de l'attention qu'il perçoit de son auditoire, à s'ajuster au mieux possible pour se faire comprendre. Donc, notamment, pour revenir sur la publication de ces trois années de cours qu'il a consacrées à l'État, qu'on vient de publier, je pense que c'est en tout cas c'est des retours qu'on a eu de lecteurs, je pense que c'est un livre à la fois qui se lit beaucoup plus facilement que ses ouvrages écrits en tant qu'ouvrage directement, et sans évacuer pour autant la profondeur de la pensée. Mais il y a, à la même époque d'ailleurs où il faisait ses cours au Collège de France, il y a un autre livre, alors là un livre qui est paru en tant que livre, qui est La misère du monde, et qui est un livre qui a été spécifique.
Qui a participé.
Auquel j'ai participé, bien sûr. C'est un livre qui nous a demandé 3 ans de travail, qui est à base d'entretiens commentés.
93.
À base d'entretiens commentés, et qui était explicitement conçu comme un ouvrage pour diffuser les résultats de la sociologie tels qu'on pouvait les penser à l'époque en 93. C'est-à-dire, et quand on relit aujourd'hui les témoignages de l'époque, on s'aperçoit que c'était pas du tout... c'était assez prémonitoire. Qui s'attaquait aux effets sociaux du néolibéralisme.
Ça s'est aggravé, accentué, enfin, ce qui était dans le livre.
Exactement, exactement. Et qui relevait là d'une réflexion sur comment diffuser les résultats de nos travaux qu'on fait depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du monde ouvrier, dans le domaine de l'école, etc. Comment rendre un accès plus facile à ces travaux, parce que c'est important que ça rentre dans le débat public, que ça rentre dans le débat politique. Et ça a été effectivement, pour ce type de littérature, un succès, puisque l'édition Brochet, qui est la première édition qui est sortie, a dû se vendre quasiment à 90 000 exemplaires, 100 000 exemplaires, quelque chose dans ces eaux-là. Et c'est sorti un peu plus tard en livre de poche, un gros livre, qui est à ce jour, qui doit être vendu autour de 15 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Ce qui est pour les livres de sociologie, de sciences sociales, un très bon score. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. Bon, et d'ailleurs, sur l'État aussi, un succès de diffusion qui nous fait plaisir et qui montre qu'effectivement, il y a un effort qui a été fait et qui porte ses fruits. Alors maintenant, cette diffusion, quel est son effet? Je dirais pas que c'est fait, parce que, par exemple, La misère du monde a donné lieu à une reprise par des gens du théâtre. Qui ont joué les entretiens. Ouais. Pour eux, c'était des textes formidables. Ouais. Et moi-même, j'ai été souvent appelé parce que à assister à ces séances, parce que ils voulaient faire après la représentation un débat avec la salle. Donc tout ça, ça contribue alors ça travaille, tout ça, travaille, ça fait changer les choses. Mais c'est, je dis pas que c'est infinitésimal, mais c'est petit à petit. Que les choses, c'est-à-dire que les changements sociaux, bon, il y a les révolutions, mais c'est pas sûr d'ailleurs qu'une révolution politique soit aussi une révolution symbolique, une révolution réelle aussi importante que cela pourrait qu'on pourrait le penser à travers le changement politique. Et puis il y a les changements réels hors révolution qui sont des changements lents. Qui sont souvent imperceptibles d'ailleurs, qui sont tellement lents que les gens ne les voient pas, et c'est souvent quand on se reporte 20 ans en arrière parce qu'on voit un reportage d'il y a 20 ans, etc., qu'on s'aperçoit que les choses, que certaines choses qu'on a vécues dans un changement insensible. Baudet évoquait le problème des plaques tectoniques. Vous voyez, finalement il y a des il y a des changements énormes, mais qui se font petit à petit. Et qui d'un seul coup peuvent apparaître, alors que ça a été très long. Alors donc, les effets de cette diffusion de la misère du monde, des travaux de monde, parce que finalement, il faut quand même être honnête et reconnaître que on peut pas penser que Bourdieu est un inconnu. Je veux dire, les thèses de Bourdieu, la manière de penser le monde social de Bourdieu, c'est quand même largement diffusé. Pas dans toute la société, mais dans un certain nombre de secteurs, notamment dans les secteurs intellectuels, etc. Donc, il a été attaqué très fortement.
Bah, il est toujours.
Il a été attaqué. Il est très attaqué. Simplement, s'il est très attaqué, c'est aussi que lui-même exerce des effets puissants de diffusion. Et je veux dire, on peut pas dire qu'on soit une école marginale.
Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment certains aussi. Évidemment, dans les forces en présence peuvent l'utiliser. Hein, à un moment, c'est ce que l'on disait avec Guy Debord pour la Société du spectacle. Eh bien, tous ces ces ministres et puis une partie importante de ceux qui soutenaient évidemment le libéralisme, le capitalisme, avaient pris connaissance dans tous les communicants de la société du spectacle et comment l'utiliser à leur propre profit, c'est le moment de le dire. Alors là, pareil, par rapport à ça, et puis alors l'autre élément, en même temps, tu dis cette diffusion, évidemment, qui se développe, alors là, une annexe un petit peu, c'est ce qu'on a dit un peu, puisque tu disais que Pierre Bourdieu, c'est vrai que différents champs comme celui de la philosophie aussi, pourquoi pas l'enseigner, alors là, dans un type d'école ou autrement, dès le plus jeune âge, alors qu'on voit que les programmes scolaires, ça c'est un des éléments, on supprimerait une partie de la philosophie et on voulait aussi supprimer à un moment les sciences économiques et sociales.
L'histoire aussi.
Ah oui, l'histoire, donc on voit... on voit, donc ça, là, on peut dire aussi, c'est très important, parce que qu'est-ce qu'il y a en face? Comment l'opposition, puisqu'on parlait tout à l'heure de 93, comment depuis, et ça va très vite, cette opposition-là s'est surdéveloppée, alors au travers des médias, comme on dit, force de destruction massive, au travers des médias et au travers de l'impact pour l'enseignement, et en particulier, là, l'éducation nationale, où on essaie de dézinguer des programmes qui permettraient cela de développer un petit peu un esprit critique des adolescents, tout du moins de leur donner des éléments de comprendre, de compréhension, d'analyse ou de critique du système capitaliste, et ça, on les retire. Alors, c'est cette bagarre entre ces forces, nouvelles de diffusion, comme là on parlera tout à l'heure, enfin l'évoquer, tu disais que le film Les Nouveaux Chiens de Garde aura été vu à peu près par 200 000 spectateurs, ce qui est considérable, et en même temps...
Pour ce type de film.
Et en même temps, préciser pour ce type de film, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, puisque c'est Acrimed, de voir la force considérable des médias, et cette force considérable avec la multiplication des chaînes de télévision, et qui disent, évidemment, toute l'histoire de la propagande de soutien du système capitaliste, qui ne se verrait pas, encore une fois, puisque les gens se disant, eh bien, il y a une multiplicité de chaînes, donc ça veut dire qu'il y a une multiplicité de propos, et que, ou comme pour la presse, les journaux, en tout cas, ou tout un tas de revues, qui disent exactement la même chose.
Oui, tu dis pour l'école, moi je suis frappé de voir qu'il y avait encore dans Le Monde il y a quelques jours l'interview d'une directrice ou d'une femme qui était proviseur d'un lycée et qui faisait l'éloge de l'autonomie. Voilà encore un mot qui, effectivement, comme démocratie, est tragiquement utilisé pour dire aux gens... Eh bien, maintenant, vous allez voir, vous allez être responsable et vous allez pouvoir agir sans vous référer à un ministre ou à un préfet ou ou un agent de l'éducation nationale, un fonctionnaire. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle sera responsable, il y aura la coupure entre le management, puisque c'est ça qui est en train de se mettre en place. Jusqu'alors, c'était que dans les universités, mais ça paraît maintenant aller même jusqu'au lycée. Et donc, on intègre, enfin, on met en place le système néolibéral dans les universités, dans les lycées, avec ce grand mot d'autonomie qui effectivement fait croire aux gens. Et là, on avait la démonstration. Elle disait, bah oui, c'est bien. Moi, maintenant, je vais être responsable. Alors qu'en réalité, elle aura comme souci de foutre à la porte les professeurs, d'embaucher des intérimaires, de demander du fric aux entreprises privées pour pouvoir fonctionner, etc. Un peu comme les universités. Alors, je crois que là encore, le travail du sociologue, c'est aussi d'expliquer ces phénomènes qui sont dans la
vie courante.
Dans la vie courante. Voilà, la vie courante.
Oui. Le problème quand on discute sur le plan des idées, c'est que là où on croit avoir un débat d'idées entre la gauche et la droite, entre etc., en réalité, on est dans une situation très particulière où d'un côté, il y a une réalité avec l'idéologie qui va avec, Et de l'autre côté, il y a des idées qu'on voudrait voir développées sans la réalité. C'est-à-dire que on est dans une société de type plutôt capitaliste.
Oui.
Avec un fonctionnement plutôt capitaliste.
Oui.
Et donc, qui diffuse des idées capitalistes.
Oui, c'est ça.
Et donc, il n'y a pas une lutte armes égales avec des gens qui proposent quelque chose qui se veut plus utopique. Mm. Parce que...
Ou complètement radicalement différent.
Ou différent, hein. Parce que...
Oui, oui.
Ou à la limite. Parce que même s'ils gagnaient,
oui, oui.
Ils vont se trouver devant une société... C'est souvent ce qu'on a dit aussi pour les socialistes. Ils ont des idées socialistes pour faire leur campagne électorale, et ils ont un gouvernement de droite une fois qu'ils sont au pouvoir. Mmh. Alors, est-ce que c'est dû à une perversion de ceux qui accèdent au pouvoir, ou est-ce que c'est dû à des mécanismes structurels? C'est-à-dire, c'est une des questions importantes, y compris pour penser la suite. Mitterrand, quand il est venu au pouvoir en 81, il avait un certain nombre de propositions qu'il a dû remettre dans sa poche en 83. Bon, est-ce qu'il a fait ça parce que...
Avec Fabius.
Mais est-ce qu'il a fait ça parce qu'il est pervers, ou est-ce qu'il a fait ça parce qu'il s'est dit, je suis en train d'écrouler le fonctionnement du monde social,
oui,
tel qu'il fonctionnait quand je suis arrivé.
Dans une société, dans un monde capitaliste.
Donc c'est un des problèmes, c'est qu'on on discute pas à armes égales avec des gens qui soutiennent la société et qui ont la force de la société derrière eux, telle qu'elle est structurée à un moment donné. Mmh. Et des gens qui disent et si on faisait une société différente.
Ah non,
oui,
mais moi
en
je.
En plus, il
non.
se réfère à un ordre mondial, ce
oui.
système capitaliste.
Oui, oui bien sûr.
Non, mais moi, je pense que c'est pas du tout une question de proposer autre chose dans l'exemple, par exemple, de l'école, mais c'est valable dans la sécurité sociale un peu partout. C'est simplement, comme dirait Orwell, d'être un anarchiste Tory, c'est-à-dire conservateur. Et on peut très bien conserver le système, même en améliorant ses mécaniques, sans le casser complètement, parce que finalement, le capitalisme, notamment sur l'école ou sur les problèmes de retraite ou de sécurité sociale, il démolit, sous prétexte de réforme,
démolit le
système ancien. Or, c'est même la conservation, à la limite,
bien
de
sûr.
Ce système pour lequel il faudrait se battre.
Bien sûr. Non, mais l'exemple que tu donnes sur la réforme, c'est formidable, parce que c'est typique, ça aussi, du piège des mots. C'est
voilà,
la réforme, comme s'il y avait une seule réforme, et comme si c'était une réforme et non pas une contre-réforme, etc. Bon, je reviens pas sur ce problème. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que ce que tu évoques sur la suppression d'un certain nombre de cours critiques qui étaient installés dans les lycées, il faut bien voir que cette suppression ou ces tentatives de suppression s'inscrivent dans une ligne qui consiste à dire il faut adapter nos jeunes à la société.
Bien sûr.
On va pas en faire des gens qui vont critiquer.
C'est l'école capitaliste,
et qui ne vont pas pouvoir être embauchés dans les entreprises parce qu'ils sont contestataires, etc. Et que les entreprises veulent pas des emmerdeurs, mais veulent des gens qui sont adaptés, etc. C'est-à-dire que c'est là aussi la logique des idées qui va avec le système tel qu'il est aujourd'hui, dans sa réalité. Qui pousse à ça. Alors, il y a un front de lutte.
Ouais.
Il y a un front de lutte, c'est-à-dire imposer la sociologie, notamment la sociologie de Bourdieu, qui est une sociologie plus critique que d'autres sociologies, etc. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vidé le Bourdieu des classes terminales, ça a un sens très précis, qui consiste et qui peut s'inspirer pour certains d'une logique imparable qui consiste à dire le but de l'école, c'est pas de former des contestataires, mais des gens qui vont être adaptés au système de production.
Ça a été toujours, notre point de vue, ça a été toujours un petit peu cette école. Hein.
C'est un sujet Condorcet. Parce que Condorcet disait l'école n'est pas faite pour apprendre un métier à un individu, mais au contraire, pour lui former l'esprit, développer son esprit critique.
Oui,
il disait ça très, très clairement. Donc, on peut dire que peu à peu, peu, même l'école de Jules Ferry, elle est tombée dans le formatage. Alors au début, c'était peut-être pas aussi évident et capitaliste. Le capital était peut-être pas aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, le formatage, ça a été de faire un bon soldat, de faire un bon citoyen, et pas tellement de faire réfléchir à l'individu.
Oui, mais là, c'est là où on voit l'ambiguïté de l'État. L'ambiguïté qui a une face sombre, c'est celle que tu viens de dire, faire de bons soldats, etc., etc., et une face, j'allais dire, plus claire, positive. C'est-à-dire qu'en apprenant à lire et à écrire, on les intégrait au système capitaliste, mais on leur donnait aussi des armes. Absolument. Pour lutter contre le système. Et donc, il y a ces deux aspects. C'est pour ça que...
L'analyse sur tout le système de l'éducation nationale, qui porte bien son nom, libertaire des programmes de l'école de la République...
Les penseurs que tu évoques de ton côté, c'est des penseurs qui sont... Qui n'existent que parce que aussi il y a des gens pour les lire, eux-mêmes ont appris à écrire, etc. Je veux dire, ont eu les armes. Nécessaires.
Jules Ferry, quand il a fait l'école de la République, il a fait l'école de qui? Il a fait le fondement même de Jules Ferry par rapport à ses 10-12 ans, juste ce qu'il faut pour les jeunes s'adapter à une nouvelle norme de production.
En même temps qu'on leur apprenait à lire et à écrire, on essayait de contrôler leur lecture, parce que précisément, ça leur donnait accès à une lecture qui pouvait contester.
Le Tour de France de deux enfants, comme livre de Chouet aussi, tu sais bien.
Et le discours de Nicolas Sarkozy sur le prêtre qui finalement a une meilleure influence que l'instituteur, Jules Ferry le disait déjà dans une circulaire en disant il faut surtout pas que l'instituteur s'oppose à la morale et du prêtre.
Oui, mais ça montre bien qu'effectivement il livrait.
Donc c'était pas développer l'esprit critique.
Non, mais ça montre bien que le fait de prendre ces précautions, c'est que ils avaient peur que effectivement, ça rend possible. Je veux dire, sinon, ils n'auraient pas pris ces précautions. Si c'était simplement intégration, on leur apprend le minimum incompressible pour qu'ils puissent s'intégrer au système de production.
Et puis, si on revient alors justement à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Pierre Bourdieu, comme l'idée du temps scolaire, l'idée des calendriers, l'idée des horaires, là aussi, en dehors même des programmes, l'institution même de l'école est une préparation à un citoyen, puisqu'on va employer cette expression, qui a la soumission
C'est l'idéologie qui...
C'est pas toi, mais l'idéologie qui est mise en place justement... par l'école, dans son mode même de fonctionnement, avec ses types d'horaires, on voit bien par rapport à la reproduction du monde du travail, comme quoi il faut se lever tôt, faut que les... Et même, on l'expliquait, on le voit dans le cours sur l'État, où le découpage scolaire, on parle d'une heure, et pas de dépassement. Alors que, si on allait au-delà d'une heure, quelquefois... Pour l'élève qui aurait pas les capacités d'avoir résolu la question en une heure et demie, il aurait pu le faire. Et le découpage se fait. Alors, c'est pour montrer que même en dehors des programmes, l'organisation même du temps scolaire, l'organisation même du rituel scolaire est une préparation étatique formidable, justement, d'adaptation à ce que l'on veut, c'est-à-dire l'adaptation à l'ordre en place, l'adaptation à l'ordre bourgeois, l'adaptation à un appareil de domination, l'adaptation au système capitaliste.
Oui, parce que ça a des bénéfices d'ordre que d'être adapté au monde dans lequel... C'est assez dur d'être dans une situation où vous êtes... comment dire, en situation de regard critique permanent dans le lieu où vous êtes, les gens avec qui... Je veux dire, c'est quelque chose d'assez inter. Si on en vient à parler du journalisme, bon, là aussi, c'est le même problème. Vous pouvez avoir de jeunes journalistes qui sortent des écoles de journalisme avec des idées formidables sur « on va faire une information », etc. Quand, pour la 25e fois, ils se font retoquer dans la conférence de rédaction sur le sujet qu'ils ont proposé, et qu'en plus, ils piétinent dans leur carrière, etc., au bout d'un certain temps, c'est où ils se barrent, où ils s'adaptent.
Oui, oui, où il cède, en fait.
Oui,
il cède au système.
Au système, tel qu'il fonctionne. Alors, il y a eu un ratage, entre guillemets, très, très, très beau pour, au moment de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Il y avait, je crois que c'est sur Canal+, donc les résultats étaient proclamés, donc il y avait ces journalistes envoyés spéciaux un peu partout. Alors il y avait celui qui était à Tulle. Et alors, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était magnifique. Et, le journaliste ne sait pas qu'il est en direct. Et donc il parle aux journalistes de Paris et il leur dit j'ai le maire de Tulle en larmes. Est-ce que ça vous intéresse? Et alors, les gens de Paris disent, bah oui, ça, bien sûr, ça nous intéresse, parce qu'on est en direct. Et...
C'est là, on a vu des choses assez extraordinaires, hein, là, pour ce direct, là, qui sont au-delà, évidemment, de ce. De
ah oui, les courses poursuites en bagnole.
Oui, de révélateur, de l'état des lieux, pour le journaliste aussi qui était devant la porte, où il y avait derrière, apparemment, François Hollande et sa compagne, qui disait la porte, eh ben, elle est là, elle est toujours fermée. Alors on pense que dans 3 minutes, ah non, dans 5 minutes, la porte va s'ouvrir. Oui, et le mec, il est obligé de meubler, au bout de 5 minutes, il dit non, elle ne s'ouvre pas, mais on espère quand même. Et donc ça non, a été un grand moment de journalisme.
La caméra qui rentre sur la pointe des pieds quasiment pour montrer Hollande qui était à son bureau, et Hollande qui fait comme si la caméra n'était pas là, et ils viennent et qu'ils repartent. Enfin, mais là c'est enfin, on peut parler un peu du journalisme,
voilà,
maintenant.
Justement, oui.
Moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a frappé dans cette couverture, qui porte bien son nom d'ailleurs.
Oui, les mots sont là pour le dire.
Dans cette couverture de l'élection présidentielle, c'est le fait que, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui, et notamment les chaînes en continu. On est dans une situation où il y a de plus en plus de médias qui couvrent de moins en moins de choses.
Bon. C'est la même chose.
Ils ont de l'info à faire en continu. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux pour passer des choses, mais pas grand-chose à passer. Ouais. Alors, c'est comme un marteau-pilon pour écraser une mouche, quoi. Enfin, alors, on ne sait plus ce qu'on peut faire rentrer dans les tuyaux. Alors, il y a les longues attentes. C'est la même chose au moment de l'affaire DSK. Il y a les longues attentes. Alors là c'est ce que tu dis il y a un instant. Dans 2 minutes, non, dans 5 minutes, on vous rappelle. Et qu'est-ce qui couvre? Des choses insignifiantes. On voit par exemple Hollande qui sort et il y a une forêt de photographes autour. Et ce qu'on voit, c'est Hollande qui qui avance avec une forêt de... Enfin, un groupe de photographes et de caméras qui sont autour de lui, etc. Quel est l'intérêt de ça?
Alors, réflexion là-dessus, justement, sur l'image qui... l'illusion qui montrerait tout et qui ne montre rien.
Quel est l'intérêt de montrer quelqu'un qui se lève d'une chaise et qui va à une porte? Bon, alors il y a aussi...
Il est comme nous, François.
Qu'est-ce qu'il a mangé à midi? Alors, on a le repas du midi.
Oui, on a eu ça, le repas du midi. Oui, oui, exactement.
Il y a un aspect que je voulais souligner aussi, c'est, puisque je vous disais que j'avais vu le film DSK Hollande, c'est l'idée m'est passée. Allez-y, parce que j'ai un petit problème.
Oui, alors c'est vrai que finalement, toute cette mascarade, parce qu'on peut pas l'appeler autrement,
je dirais qu'il y a une logique journalistique. Il y a des inventions techniques qui permettent effectivement de suivre aujourd'hui une voiture à moto.
Ah oui, ça, oui.
Oui, avec un motard d'ailleurs qui s'est fait donc, sa figure.
Ça devient l'information. Voilà, l'information, c'est un motard qui s'est planté. Alors, on va vous donner des nouvelles de sa santé. C'est pas bien grave qu'il est arrivé.
S'il était blessé ou il allait dans quel hôpital.
Voilà, alors donc, ce que je voulais dire, c'est, excusez-moi pour le petit trouble, c'est Gilles Balbastre. Donc, dans ce film, il montre à quel point cette couverture des élections ressemblait à une espèce de combat sportif. Et voilà, le sport, on sait comment ça mobilise les foules. Hein, y a qu'à voir le nombre de gens qui vont au match de foot et tout. Et donc, il parle de ça. Il dit si les journalistes pouvaient faire en sorte qu'il y ait des élections tous les ans, ça les intéresserait parce que il y a que ce côté sportif de compétition entre deux individus, entre bon, alors là c'est le vainqueur, la gloire du vainqueur qui monte sur le podium, la lutte qu'il y a entre eux qui les intéresse. Mais ce qui se passe entre la première année et la cinquième, à la limite, ça les emmerde. S'ils pouvaient faire en sorte qu'il y ait tout le temps cette espèce de d'émulsion, voilà, de faire semblant qu'il se passe des choses alors qu'il se passe strictement.
Et puis il y a grâce au sondage durant la campagne, il y a le fait de transformer ça en course de chevaux, comme ça a été dit. Je l'avais évoqué moi-même il y a maintenant 20 ans, à un moment où ça commençait à être comme ça. Et donc on regarde qui rattrape qui est distancé par qui, etc. On en rend compte comme d'une course de chevaux.
Évacuer alors, et c'est ça peut-être abordé, évacuer tout sens politique, tout propos politique, et faire du spectacle. Donc du spectacle sur l'insignifiant justement d'éléments, comme là une course-poursuite avec des journalistes, un progrès technique, un avion qui décolle de Tulle, que l'on attend avec impatience, après une course-poursuite avec des motards, une arrivée à la place de la Bastille. Donc on voyait une sorte de cérémonial, c'est-à-dire une sorte de carnaval d'images, dénué de sens politique. C'est-à-dire, par là même, on évacue toute réflexion sur le propos, sur ce qui est en train de se passer.
Oui, mais est-ce que élire un roi a un sens politique? Justement, ça correspond bien au roi Dagobert. C'est-à-dire, au fond, c'est pas important de savoir pourquoi on a besoin d'un roi, pourquoi on a besoin d'un président de la République. Ce qu'il faut, c'est le jeu.
Oui,
c'est
voilà.
Le jeu,
voilà.
Entre deux concurrents.
Pour revenir au débat au débat tout à l'heure sur la domination symbolique, je dirais que là aussi, il faut pas oublier une chose, c'est que l'information, elle est fabriquée de manière très, comment dire, partielle par les journalistes. Elle est aussi fabriquée par ceux qui les suivent, ceux qui les écoutent, ceux qui les lisent. Parce qu'un journaliste, ça c'est aussi une expérience maintes fois rapportée par des journalistes, par de jeunes journalistes, c'est-à-dire des jeunes qui veulent faire une sorte de journaliste de l'offre. C'est-à-dire, moi en tant que journaliste, m'intéressant à la politique, etc., je pense que c'est ça qui est important. Bon. Mais il va être confronté sur est-ce qu'il va être lu, est-ce que ça va plaire. Donc, ce qu'il faut bien voir, et ce qui rend les choses compliquées, c'est que un journal est fabriqué par ses lecteurs, en partie, pas totalement. C'est-à-dire, c'est là aussi où le monde journalistique doit faire preuve d'inventivité pour faire passer l'essentiel auprès d'un public qui spontanément ne suivrait pas l'essentiel, mais plutôt l'accessoire. En d'autres termes, les courses-poursuites, tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, qui était extra-politique, enfin, qui est hors politique, et qui relève plutôt, comme toi tu le dis, d'une mascarade. Moi, je dirais, c'est la solution provisoire que trouvent les médias qui sont hyper développés aujourd'hui et qui savent pas quoi faire, pour s'adapter à ce qu'ils semblent penser qui plaira à leur public. Et là, une des choses, par exemple, qui est signalée dès le lendemain, c'est France 2 a battu TF1. C'est-à-dire qu'on raisonne en termes de couverture gagnante.
Oui, mais Camus disait que le journaliste, il n'a pas comme mission de plaire au public. Pour lui, il disait, le journaliste, il doit instruire, il doit essayer de faire comprendre.
Mais ça, il peut le dire, il peut le penser, il reste à le faire. Et le problème, c'est, est-ce que compte tenu des structures actuelles de fonctionnement du journalisme, qui sont soumises largement à des logiques d'audimat, est-ce que c'est possible ou pas?
C'est l'image qu'on voyait à Vassivière, à une réunion de journalistes, où il y avait d'ailleurs Pierre Carle, et où cette image, c'était, on voyait un journaliste assez fier qui disait « je suis indépendant », et son interlocuteur plus modeste, qui était juste en face, lui disait « pour qui ?» Je suis indépendant pour qui ?
Totalement, ouais, totalement. Non, non, mais oui, là on est dans le problème, je crois, que je soulevais tout à l'heure. Il y a d'un côté la réalité de fonctionnement du champ journalistique, d'un côté, et d'un autre côté, il y a les idées qu'on se fait sur ce qu'on voudrait être le journalisme. Mais il lutte pas armes égales entre ceux qui sont... qui défendent le système et qui ont le système avec eux, ben et oui. ceux qui veulent un autre journaliste. Ah oui. et qui,
la bataille.
Quand en 80, Mitterrand a été élu, qu'est-ce qui s'est passé dans les chaînes? Notamment sur la troisième chaîne. C'est des choses que j'ai eues par interview, enfin par entretien, oui. avec des journalistes. Ils ont voulu faire un journal où on parlait des luttes. Bon. Hein, où c'était pas le truc de la fête de
la rose au Panthéon.
Voilà. Non, mais même des sujets moins politiques du tout, pas politiques du tout, avec des équipes de journalistes qui pensaient avant l'arrivée de Mitterrand, qui pensaient voilà ce qu'aime le peuple, on va lui servir ce qu'il aime, etc. Bon, quand Mitterrand est arrivé, on a changé certaines équipes, notamment à France 3, et ils ont voulu faire dans le social, de faire de l'info sur les luttes, les grèves, les machins, etc. Leur taux d'écoute a chuté de manière vertigineuse en quelques semaines.
Bah oui.
Parce que, alors, les explications qu'ils donnaient, c'était les gens vivent déjà ça dans leur réalité, on ne va pas leur coller ça le soir, etc. C'est-à-dire que revenait l'idée que l'info, au moins à la télévision, il y a un aspect spectacle que les gens regardent.
C'est tout à l'heure.
Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, là encore, on est dans une situation où... Il y a ce que le fonctionnement du champ journalistique tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, tel qu'il est financé, etc., d'un côté, et puis les idées qu'on peut se faire, qu'on peut avoir, oui. j'allais dire de manière très gratuite, hors économie, et puis quand on veut les faire fonctionner, comment réagit le système ?
Josy, tu veux poser ?
Oui, je voulais dire quelque chose, parce que ce matin encore, moi j'ai entendu, je crois que c'était sur France Inter ou France Culture, enfin une des deux radios, où justement un journaliste parlait de ce qui s'était passé pendant la campagne électorale, et alors selon lui, et c'est une reprise de choses qui se sont passées, et qu'on peut voir dans ce fameux film, c'est qu'il disait finalement les discours intéressants, c'était en fait on aurait pu se passer de tous les discours de tous les petits représentants de petits partis, et donc les seuls représentants de gros partis pouvaient dire des choses intéressantes, le reste ça n'avait aucune utilité. Et on voit par exemple Apathy et Denisot, comment ils ont traité dans la répartition du temps d'un parti aux gens, ils sont obligés de faire venir les représentants des petits partis, et la manière dont ils ont traité des gens comme Poutou, comme Nathalie, je ne sais plus comment son nom,
est
vraiment d'une manière absolument mais injurieuse, comment ils ont été avec eux, et puis de dire carrément mais vous n'avez aucune utilité, mais qu'est-ce qu'on vient, en fait c'est une perte de temps, on est en train de perdre notre temps à vous donner la parole. Parce que sous prétexte que c'est démocratique, que tout le monde a droit à son temps de parole, les journaux sont pas tenus à cette restriction-là.
C'est important,
donc,
oui,
quand
très
on est une
oui.
chaîne privée, et c'est oui. Apathy qui dit ça, c'est vraiment honteux, oui. quoi.
Enfin, bah, c'est leur rôle, ils sont dans leur rôle, hein,
voilà.
à mon point de vue.
Donc je voulais dire ça. Alors, bon, je pense que c'est peut-être une attitude agressive actuellement, parce qu'ils sont justement sur la défensive de tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant de dénonciation, peut-être que c'est ça, mais en tous les cas, il y a une dérive absolument, je sais pas comment dire, autoritaire, enfin, incroyable, quoi.
Ouais. Oui, mais même, ils vont au-delà des désirs de leur maître. Et alors, ils en tirent des profits, ils en tirent évidemment des avantages, et c'est ça que l'information spectacle, et en particulier ces journalistes, alors entre guillemets, de la télévision, qui dépassent, qui ont un autre rôle, hein, celui-là de gardien de l'ordre établi, et qui, on n'a pas besoin de leur demander, sont reconnus hein, dans les médias, et donc justement, puisque tu évoquais tout à l'heure Apathy, Denisot en particulier, enfin il y en a d'autres, de nombreux, ou Monsieur Pujadas, hein, puisque
oui,
que dans le film, c'est évoqué dans le film Les Chiens de Garde. Mmh. On le voit à partir des événements de 2005, hein, dans, en lui disant, là, dans son rôle, alors c'était Monsieur Pujadas, et puis pour l'émission Mots croisés, Calvi, qui était dans le rôle de flic d'État, en disant à un jeune, vous êtes là, vous allez sortir de l'émission, puis vous allez appeler à ce que ces jeunes rentrent chez eux. Hein, le couvre-feu ce soir, oui. vous devez être dans ce rôle-là, c'est votre rôle à vous. C'est alors, ça, c'est un élément dont on pourrait parler, qui va, les chiens de garde, ce que sont les journalistes, que sont devenus, hein, voilà. Si tu veux.
Oui, non, mais là tu pointes effectivement, un point important qui est le fait suivant, c'est que il y a les logiques du système et il y a le degré auquel on sert le système. C'est-à-dire que le fait d'évoquer les logiques du système qui n'implique pas que les ceux qui le servent n'ont aucune responsabilité et ne sont que des agents passifs. Qui ne font que ce qu'il y a à faire et rien d'autre. Il y en a qui le servent plus que d'autres, etc. C'est pour ça que le front de lutte est toujours possible, notamment dans la dénonciation de ceux qui en font beaucoup et dans la manière dont s'organise de manière explicite la domination. Enfin, il me semble que là il y a matière à la lutte. Hein. Parce qu'encore une fois, je ne voudrais pas que la sociologie soit
un sport de combat. Voilà, est un sport de combat, nous sommes bien d'accord. Hein, non, ce n'est pas quelque chose qui nous font renoncer.
Ça ne doit pas conduire au fatalisme.
Oui, non, et
d'ailleurs, si fatalisme il y a en sociologie, il est plutôt du côté des sociologues de droite, avec une logique du « c'est toujours ainsi ».
Oui.
Hein, on découvre des mécanismes et c'est des mécanismes de fonctionnement universel.
Comme l'économie.
Voilà, comme l'économie.
Comme
exactement.
La météo.
Et qui était plutôt le positionnement d'Aron, par exemple, qui avait ce côté.
C'est ça, avec.
Ce côté, oui. on, j'en ai vu beaucoup et c'est toujours pareil. Mmh. Et c'est toujours pareil. On ne me la fait pas à moi, on ne va pas me raconter des histoires. Et la manière dont il a parlé de la révolution de mai, entre guillemets, etc., la révolution introuvable, est tout à fait typique de ça. Et puis du côté de Bourdieu et de sociologues critiques, où on pense que à la fois c'est important de déchiffrer le fonctionnement du monde social, ça c'est très important.
C'est très important, oui.
Et ce qui est également important, c'est pas seulement de le faire pour que ça reste un livre qui te fait avancer dans la carrière de sociologue, mais qui reste dans la bibliothèque, sur le rayonnage de la bibliothèque. Il y a aussi après le devoir de restitution, c'est-à-dire le fait de participer à la diffusion.
Et à l'explication aussi pour les gens qui ne savent pas.
En s'adaptant aux gens auxquels tu t'adresses. Et notamment, Bourdieu a toujours fait ça. Il s'adressait à des publics très hétérogènes.
Oui, oui. Et puis la collection, enfin l'édition qui porte bien son titre, son nom, Raison d'agir.
Oui.
Nous avons raisons d'agir et de réagir.
Alors ça fait partie. Alors c'est la spécificité aussi de, j'allais dire, de l'action que souhaitait, qu'a préconisé Bourdieu. C'est ce qu'il appelait sa vision de l'intellectuel. C'est une sorte de synthèse entre l'intellectuel selon Sartre et l'intellectuel selon Foucault. Alors l'idée est très simple. Oui. L'intellectuel selon Sartre, c'est l'intellectuel total, c'est-à-dire c'est celui qui sur tout sujet peut intervenir parce qu'il a une bonne formation philosophique. Bon, Foucault.
Pour pas dire totalitaire, pour Sartre.
Oui, mais enfin.
Non, pour Sartre.
Bon, disons total. Foucault, qui parlait, lui, de l'intellectuel spécifique. C'est-à-dire, c'est un intellectuel qui, sur la base de ses travaux en sciences sociales, intervient dans le débat public. C'est ce qu'il a fait à propos des prisons.
Et sur des sujets qu'il connaît.
C'est ce qu'il a fait à saisir les prisons. Il avait écrit « Surveiller et punir ». C'est ce qu'il a fait à propos de l'homosexualité, où il n'était pas seulement lui-même concerné, mais il a également publié des choses sur l'histoire de la sexualité, etc. Bon, et Bourdieu, lui, préconise l'idée d'un intellectuel collectif. C'est-à-dire que une personne ne peut pas intervenir sur tout, un intellectuel ne peut pas intervenir sur tous les sujets, mais on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait un collectif d'intellectuels qui couvre les domaines les plus importants, pour le débat public, et qui, selon ce qu'il y a à faire, intervient ou n'intervient pas, et c'est le collègue qui intervient. Mais là, ça suppose, pour constituer ce groupe d'intellectuels, ça suppose qu'il y ait une locomotive, quelqu'un qui coordonne un tout petit peu tout ça. Et quand Bourdieu était là, il a su mobiliser. Aujourd'hui, ça continue, mais peut-être avec un peu moins de force qu'il n'a pu le faire lui-même. Mais la collection, effectivement, qu'il a ouverte, et qui est continue. Du militantisme scientifique, qui se veut scientifique, il ne s'agit pas seulement d'être militant, mais aussi essayer de le faire de manière rationnelle. Il y a cette collection de petits livres qui sont faits par des spécialistes de leur domaine et qui essayent de se mettre à la portée d'un public de non-spécialistes, de le diffuser le plus largement possible. Notamment, je ne résiste pas au plaisir de l'un de ces petits livres qui a été écrit par Lordon, un économiste, qui s'appelle... qui s'appelle Fonds de pension piège à con, qui a été écrit avant l'effondrement.
Ouais.
Voilà, donc
non, alors, sur cet aspect-là, alors évidemment, c'est très important, et on parlait tout à l'heure de plus que nécessaire de cette diffusion, et alors encore une fois, peut-être revenir aussi, puisque c'est sur l'État. Comment diffuser, on l'évoquait tout à l'heure, par rapport à les télévisions, comment ça peut marcher, puisque ces télévisions-là confisquent la parole, puisqu'on l'exprimait tout à l'heure, d'autres points de vue peuvent pas être évoqués. Après, on peut voir pour l'ensemble des radios, pour l'ensemble évidemment de la presse, des journaux, et on l'a rappelé aussi pour l'école. Ce qui a été dit aussi, c'est que pour des enfants, la philosophie, il y a des expériences qui ont été faites, et peut-être on les a arrêtées, c'est de voir qu'à 10-12 ans, les questions philosophiques, ça passionne les enfants, et que c'est quelque chose qui est totalement écarté.
Oui, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que la philosophie est diverse. Et que c'est pas en enseignant la philosophie qu'on enseignera nécessairement, entre guillemets, la bonne philosophie.
Mais le questionnement, non, c'est-à-dire la manière d'être, on revenait tout à l'heure sur la disposition de l'école entre les maîtres et l'élève.
On va trouver des débats analogues dans tous les secteurs.
C'est ça.
C'est pas en mettant la philosophie nécessairement à 12 ans qu'on va avoir la solution.
Non, c'est pas la solution, mais c'est-à-dire que ça a été toujours retiré, ça ne se passe pas sur l'école, et les quelques expériences qui ont été faites, c'est pas forcément au thème philosophique, mais c'est la disposition simplement à se questionner, déjà à formuler un questionnement.
Tu peux te questionner d'une manière pas très critique, en pensant que tu t'es questionné, etc. Non, ce que je veux dire là, ici, c'est que il n'y a pas de solution miracle.
Des solutions miracles.
Même en disant l'école qui peut apprendre une disposition critique.
Parce qu'elle, à mon point de vue, elle retourne, elle fait tout le contraire.
Ce qu'on va avoir,
c'est pour ça.
Parce que la lutte est partout, à tous les niveaux. On va avoir, dans l'apprentissage de dispositions critiques, ceux qui seront plutôt sur les dispositions critiques de droite, et ceux qui sont plutôt sur les dispositions critiques de gauche. Le monde social dans toutes ses strates est traversé par des luttes. Il faut lutter. C'est presque une sorte... s'il y a une loi sociale...
Combat pour la vie, struggle for life.
Encore une fois... et d'une certaine manière, c'est bien que ce soit comme ça. D'une certaine manière,
la lutte là aussi est totalement inégale. Aussi, c'est
C'est indépendamment de l'égalité ou de l'inégalité. Ce qui est important, c'est que un pouvoir, et notamment un pouvoir d'État, et un pouvoir financier, un pouvoir économique, est capable d'étouffer toute velléité de lutte. Tout à l'heure, on parlait de la soumission volontaire, de la servitude volontaire, et par conséquent, l'objectif, en effet, de tout pouvoir, surtout centralisé, est de maintenir une situation d'apaisement,
Mais ça ne veut pas dire qu'il y arrive. Parlons d'Acrimed. Un observatoire critique des médias, qui régulièrement essaye de démonter un tout petit peu la manière dont se fabrique l'information. On n'a pas gagné, on n'est pas en situation de force, mais c'est une petite force. C'est une petite force et qui progresse au nombre d'adhérents. On a lancé un magazine écrit qui vient un petit peu en renforcement aussi du site internet qui s'appelle Média Critique. On a de nombreux abonnements, ça fonctionne bien.
Oui, c'est ça l'intérêt, c'est votre aspect, l'aspect d'Acrimed de pédagogie active.
Oui, oui. Mais donc, ça veut dire que la critique est possible. Mais ça veut pas dire que parce qu'on fonctionne pas trop mal, parce qu'on désosse la manière dont les choses se passent dans les médias, que c'est gagné. Bon, simplement,
oui, non, parce que ça,
tu évoquais tout à l'heure apathie de Morand. On a fait des observations et des articles critiques sur ces gens-là. Bon, ça les désigne pas pour autant.
Ah bah, au contraire, non, ils sont toujours là et de plus en plus forts.
Je sais pas si c'est au contraire, mais en tout cas, ils sont toujours là.
Si, on peut penser en effet que être critiqué par Acrimed,
ça nous fait monter, mais alors je sais pas dans quelle hiérarchie. Hein.
Alors l'autre questionnement, c'est pour ça que je te disais des grands appareils d'État. Là, on a terminé, donc on a que quelques minutes hein, par rapport à ça. C'est toute la difficulté justement de que le système peut, alors ça tu le sais bien, accepter juste la part nécessaire pour la cocotte minute, hein, pour qu'elle explose pas, et que donc des positionnements qui sont acceptés tant que ça remet pas fondamentalement l'ordre en place. Et alors c'est bien pour ça que je te dis que on est l'illusion, hein, comme disait Chomsky, les illusions nécessaires, c'est de dire que le système peut tolérer hein, quelques endroits, quelques lieux, quelques groupes qui soient réellement contestataires, et puis de dire, par rapport à ça, on accepte, ça devient véritablement dangereux, là on voit comment les chiens de garde justement se mettent à mordre et comment les barrières tombent.
Ça ne les a pas renforcés aussi, parce qu'on sent qu'il y a je sais pas comment ça se passait il y a 10 ans, mais là justement entre tous ces journalistes interchangeables comme on voyait dans les nouveaux chiens de garde avec l'espèce de Rubik's Cube là où chacun peut prendre la place de l'autre hein, à Libération, à la télé et tout, est-ce que ça n'a pas renforcé une espèce de communauté aussi cette dénonciation qui s'est construite petit à petit, parce que je me souviens Acrimed au départ, elle donnait des conseils, prenez des notes, écoutez quand vous écoutez quelque chose surtout notez.
On continue à donner des indications. Les articles sont toujours fabriqués de la même manière,
et tout ça, c'est
c'est-à-dire
bien
sur des choses très précises et pas sur des impressions, etc. Il faut citer des sources précises, des textes précis, des choses précises qui ont été faites, et qu'on peut même appuyer par des vidéos. Mais là, du coup, c'est vous qui êtes sacrément pessimiste, c'est-à-dire que vous dites que la critique que vous appelez de vos voeux, elle a un effet négatif qui renforce encore le pouvoir des puissants.
C'est un questionnement dont il faut mettre à jour
c'est un constat, parce que quand vous verrez ce film, vous allez voir, je crois que le parti des médias a augmenté un peu plus d'un cran son agressivité, sa méchanceté. Vous allez être surpris. Voilà, Patrick, si tu as vraiment quelque chose à dire, on va te laisser 2 minutes à la fin.
C'est ça.
On voudrait simplement nous annoncer, avant de te laisser les derniers mots, Gérard Vasy, le Salon du
Salon Livre de Libertaire. Livre Libertaire, alors c'est le 11.
C'est dommage que vous ne soyez pas invité, je pense.
11, 12. Mais si, il faut venir comme ça, sans être invité. On n'a pas besoin d'inviter pour venir. Alors, le 11, 12 et 13 mai, hein, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc, ça se trouvera à l'espace d'animation des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple. Hein, c'est à Paris, hein, pour nos amis de province et d'ailleurs, qui nous écoutent. Et donc, c'est le métro Hôtel de Ville ou Saint-Paul dans le 4e, et c'est 3 jours de rencontre
Des films, débats, justement. Il y aura des films avec Jean-Pierre Levaret et aussi des films où on abordera la question des médias, voilà. Certainement. Alors, nombreux invités, des éditeurs, énormément de choses. Parmi les invités, j'en cite quelques-uns. Jean-Pierre Garnier, on l'a pas évoqué tout à l'heure. Patrick Declercq. Mmh. Hein, il y aura Serge Cadrupani qui est venu dans cette émission. Jean-Manuel Trémont, Jean-Luc Porquet, c'est le canard enchaîné, vous le savez. Et puis Jean-Pierre Tertrais, hein, pour son ouvrage « L'impasse suicidaire du capitalisme ». Alors, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, les livres, très importants, espace d'animation et projection de films. Vidéos. Et on abordera certainement aussi des thèmes de sociologie, comme on l'a fait ce matin voilà. Avec toi, Patrick.
Alors,
Champagne.
Patrick, à toi le mot de la fin, les 2-3 minutes qui nous
restent. On a beaucoup parlé de Pierre Bourdieu, mais je pense que sa pensée est tout à fait vivante. Oh, je signalerai simplement, pour aider ceux qui souhaiteraient lire certains livres de Bourdieu qui sont difficiles mais qui sont importants, que j'ai publié avec Olivier Christin un livre d'initiation à Pierre Bourdieu qui vient de paraître aux presses universitaires de Lyon.
D'accord.
Et qui s'appelle ?
Qui s'appelle Pierre Bourdieu, une initiation.
Donc, voilà, pour les auditeurs, Chronique Hebdo, ça se termine.
Et je pense que tu peux citer quand même tes livres.
Oui, ben oui. J'ai publié, alors bon, un petit rappel, dans la collection Point, un ouvrage sur la crise de la reproduction sociale de la paysannerie française qui s'intitule « L'héritage refusé ». J'ai publié en 90 un livre qui, je crois, est toujours actuel, qui s'appelle « Faire l'opinion, le nouveau jeu politique ». Et puis, participé à La Misère du Monde, au livre de La Misère du Monde. Et puis là, récemment, j'ai...
Sur l'État.
Contribué à l'édition des cours de Bourdieu sur l'État. Et je travaille actuellement à l'édition de deux autres années des cours de Bourdieu au Collège de France, qu'il avait consacré au peintre Édouard Manet. Mmh. En tant qu'il représentait tout à fait de manière formidable ce qui était une révolution symbolique, et on revient à ce qu'on disait au début sur l'importance du symbolique chez Bourdieu.
Voilà, voilà. Et bien, on te remercie, Patrick.
Merci, Patrick.
Et à la prochaine.
Salut.
Je vous le laisse, là, vous l'avez pas.